Je m'appelle Alice Bigot, j'ai 27 ans et je suis ingénieure et navigatrice, grosso modo. Là, je suis en train de préparer un projet de course au large en mini 650, c'est les plus petits bateaux de course au large, en vue de faire la mini Transat en 2027. Donc, c'est une transatlantique en course en solitaire. 27, donc qui part des Sables-d'Olonne jusqu'en Guadeloupe. Ça, c'est mon projet. Et en parallèle, moi, je suis ingénieure dans les matériaux composites et plus précisément dans la construction de bateaux. Donc là, mon dernier travail, c'était la construction d'un IMOCA qui partira sur le prochain Vendée Globe en 2028. Voilà. Et donc, en parallèle de mon projet, j'ai envie de promouvoir ces métiers techniques qui sont sous-représentés par les femmes. Donc, je fais régulièrement comme des interventions avec des jeunes comme vous pour présenter ces métiers-là et essayer de briser un peu les stéréotypes. Non, pas parce qu'on empêche les femmes de faire ces métiers-là, mais parce que souvent, elles se sentent un peu limitées et il y a un peu des croyances qui font qu'elles y vont pas, quoi. Donc j'essaye de parler un peu de mon parcours, parce que j'ai un parcours, je vous en parlerai peut-être après, mais qui est un peu chaotique. Donc montrer aussi qu'il y a des parcours qui ne sont pas forcément linéaires et que ce n'est pas grave. J'ai fait un bac général, j'étais en Île-de-France à l'époque. À l'époque, c'était il y a 10 ans quand même. Je ne savais pas trop quoi faire, bon, pas du tout. Je commençais déjà un peu à naviguer à ce moment-là. J'ai navigué en compétition depuis l'âge de 15-16 ans. J'aimais beaucoup les maths et la physique, je me rappelle. Et pas du tout les SVT, enfin les sciences naturelles. Arrivé au bac, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit que j'allais faire médecine. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je me rappelle juste qu'il y avait une fille qui était au lycée avec moi qui allait faire ça et je trouvais ça cool. Voilà. Je me suis retrouvée en PACES. Ça s'appelait PACES à ce moment-là, c'est la prépa, 2 ans de médecine. C'était une prépa pour faire médecine. J'ai pas eu médecine. J'ai failli l'avoir, mais j'ai un peu craqué quelques semaines avant. Mais je pense que c'était un peu un acte manqué. Je me suis retrouvée en pharmacie. Du coup, j'ai fait 3 ans de pharmacie. Donc au total, 5 ans de santé. J'ai arrêté de naviguer. J'ai repris un peu en pharmacie. Depuis longtemps, j'avais un peu cette envie de naviguer qui grandissait en moi. Mais je me sentais pas hyper capable. Enfin, en tout cas, je l'assumais pas trop. J'osais pas trop en parler. Mais quand même, ça grandissait en moi. J'en parlais pas. Mais je sentais que j'avais de plus en plus envie de faire de la course au large, quoi. Au même moment, on m'a donné un bateau, un peu tombé du ciel, un petit habitable de 8 mètres que j'ai toujours. On me l'a vraiment donné. C'est là que j'ai commencé à plus naviguer au large et toute seule. À ce moment-là, j'ai aussi commencé à plus naviguer en compétition. J'ai repris vraiment la compétition. Et là, j'en faisais tous les week-ends. Et c'est de là que c'est parti, quoi. Et donc là, j'ai vraiment réalisé que pharmacie, j'avais rien à faire là. Je me voyais pas du tout faire un métier là-dedans, vraiment ça me correspondait pas. En plus j'étais en région parisienne, j'aimais pas du tout. Moi à ce moment-là ça allait pas très bien, vraiment pas très bien. J'étais longtemps perdue je me suis dit il faut que je trouve un métier qui m'aide à naviguer si un jour peut-être j'oserais faire ce métier-là, quoi. Enfin si un jour j'ose naviguer, quoi. Ce qui me semblait inaccessible. Mais je me suis dit je vais quand même essayer de me donner un peu les moyens, quoi. À ce moment-là, j'ai beaucoup parlé avec la vice-doyenne de la fac qui m'a parlé d'une fille qui s'était réorientée de pharmacie et qui était partie faire des cœurs artificiels. Bon, qui était partie faire une école d'ingénieur. Et j'ai trouvé ça super intéressant et je me suis dit, tiens, je vais faire des prothèses. Mais prothèse égale pas bateau, quoi. toujours un petit souci. Au même moment, mon bateau qu'on m'avait donné s'est échoué dans les cailloux. Et du coup, il s'est échoué et j'ai dû le réparer toute seule et j'avais jamais fait ça. Et c'est là que j'ai commencé à toucher à la fibre de verre et à la réparer toute seule. Du coup, il y avait le safran, le gouvernail qui s'était cassé, il a fallu en reconstruire un. J'ai fait ça avec mon père. La coque, il y avait des trous, je les ai réparés. Et pendant tous les week-ends, le bateau était à Belle-Île. Et moi, j'étais à Nantes à ce moment-là et je partais tous les week-ends le réparer et j'ai trouvé ça génial en fait. Il y a plein de trucs. C'est là que j'ai découvert les composites, enfin la fibre de verre, et j'ai trouvé ça génial. Et là, petite idée a germé dans ma tête. Je me suis dit, si je faisais une école d'ingénieur dans les composites pour pouvoir faire des prothèses ou des bateaux. Voilà, parce que les prothèses, c'est du composite aussi. Il y en a qui sont en fibre de verre ou en carbone. Les bateaux, bah, pareil. Je me suis dit, je vais faire ça. Et comme ça, je pourrais faire soit l'un, soit l'autre. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée en école d'ingénieur. C'était pas du tout le parcours classique. Je venais de pharmacie, je me suis retrouvée en école d'ingénieur. Il n'y avait pas de forme, comment on dit, de passerelle qui me permette d'y accéder. Ça me désespérait un peu et du coup j'ai fini par envoyer des mails dans plein d'écoles d'ingénieurs Et on a une à Nantes qui m'a prise. On a juste fait une visio. Mon dossier était plutôt correct. Et ils m'ont prise comme ça. Ils ont vu que j'étais motivée. Je leur ai raconté un peu toute cette histoire. Et c'est comme ça que je suis arrivée chez eux. Donc, ça a été un peu compliqué au début. Mais j'ai fini par valider ces 3 années. Et je me suis trouvée ingénieur. Et j'ai jamais travaillé dans les prothèses. Ensuite, j'ai fait mon stage dans la construction d'un bateau de course au large, du coup, qui va faire le prochain Vendée Globe. C'est Nimoca d'Armel Tripon, c'est un skipper nantais. Donc, j'ai travaillé dessus pendant 1 an et demi. Le bateau est sorti de chantier en décembre 2024. Et moi, à la fin de ce projet, je me suis dit, ça y est, faut que je me lance moi-même maintenant et que je fasse aussi mon propre projet de course au large, quoi. Donc, je me suis arrêtée de travailler. Et depuis quelques mois maintenant, je suis en train de rechercher des partenaires pour faire mon projet. J'ai signé l'achat d'un bateau avec des partenaires et là je souhaite partir sur la Mini Transat 2027, quoi. C'est un métier finalement de chercher des sponsors, c'est un peu là je suis en train de monter, j'ai créé une association, après je vais créer une entreprise. L'idée à la fin c'est d'avoir une double activité en tant qu'ingénieur et navigatrice. Donc finalement c'est un peu être chef d'entreprise, quoi. Je suis vraiment en train de monter le projet. Donc mes journées en ce moment sont très variables, tu vois, je suis là aujourd'hui avec vous. Hier, j'étais en train de visiter avec des élèves le chantier qui a construit mon bateau. Et ensuite, on a fait une formation. En retour, ils m'ont fait une formation sur les moteurs, formation mécanique, quoi. Et le jour d'avant, j'étais en train de m'entraîner dans la baie de la Trinité, quoi. Et sinon, les autres jours, je vais le matin et je me mets derrière mon ordi, je suis beaucoup sur LinkedIn et je cherche des partenaires et j'essaye d'avoir le plus de rendez-vous possible. Par exemple, lundi, j'étais à Nantes en agence d'intérim avec le directeur de l'agence en train de lui parler de mon projet. Et ça, c'est des moments que j'aime bien finalement parce que là, c'est pas facile de chercher tout le temps des partenaires. Donc, les moments qui sont cool, c'est quand je me retrouve dans du concret, donc face à un potentiel partenaire. À lui parler de mon projet ou face à des élèves comme vous. Ça, c'est vraiment aussi... l'objectif de mon projet, c'est pas que de naviguer, c'est vraiment de transmettre et de parler de tout ça et d'essayer de briser quelques stéréotypes. Donc, quand je me retrouve dans une situation concrète comme là avec vous, c'est vraiment des choses qui me font plaisir. Bon, j'ai pareil. Pour l'instant, le bateau... comme je disais, je suis en train de monter le projet. Donc, le bateau, il est pas à moi réellement, là. Il est à une ancienne propriétaire qui va faire la Transat cette année et moi, je la fais celle d'après. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas avec moi, donc je n'ai pas des entraînements très réguliers. Je prépare des courses, mais qui ne sont pas forcément sur ce bateau-là. La prochaine que je vais faire, ce n'est pas sur mon bateau. Par contre, cet été, je vais en faire une sur ce bateau-là. Mais du coup, une journée d'entraînement en mini, du coup, en course au large. Par exemple, j'en ai eu la semaine dernière. J'ai fait 2 jours d'entraînement en mini pour préparer la prochaine course. Là, là on arrive le matin on se donne rendez-vous vers 9h. Donc là, c'est en week-end. Vers 9h, on fait 1 heure de briefing. On va faire un peu de théorie et on va préparer l'entraînement. Ensuite, on va sur les bateaux, on les prépare, on règle des choses, s'il y a des choses à préparer avant de partir. On part sur l'eau et là, c'est de 10h à 16h, 17h sur l'eau à faire des parcours soit très courts pour enchaîner plein de manœuvres et que ce soit assez physique, soit faire des parcours un peu plus longs pour plutôt travailler les réglages... l'électronique à bord, ce genre de choses, quoi. Du coup, là, c'est la course au large. En parallèle, moi, je fais aussi beaucoup de courses plus proches des côtes, entre 3 bouées, pas en au large, mais en match racing, ça s'appelle. Et là, ça, j'en fais assez régulièrement et des fois aussi en semaine. Et là, pareil, on est entre 9h et 17h sur l'eau à enchaîner des parcours, faire des speed tests, faire des départs... en flotte avec beaucoup de bateaux pour gagner des manches, quoi. Il y a plein de choses comme ça. Et puis après, du coup, mon rythme plus tard, il commence léger un peu maintenant, mais ça va être des entraînements du coup tous les week-ends et des entraînements en semaine aussi, avec des formations assez régulières. Si par exemple, là j'en ai une lundi soir à 20h, si on a beaucoup de formations, en général une par semaine. On va travailler, par exemple, en ce moment, c'est le sommeil. Ensuite, le sommeil à bord. Donc, on a 2 sessions de 2 heures en visio avec un médecin du sport qui est spécialisé dans le sommeil. Ensuite, on va avoir des formations en électronique, en gestion de l'énergie à bord, comment se nourrir, ainsi de suite, quoi. Plein de, c'est très large. En fait, la voile, c'est quand même un sport qui demande des compétences très, très, très variées. Des compétences physiques, mais aussi des compétences techniques, quoi. Mais ça va aussi plus loin que ça. C'est du mental. Il faut savoir se préparer mentalement. Parce que une transat, par exemple, 2 semaines tout seul sur un bateau, je sais pas, à un moment, tu fais un mauvais choix, tu te retrouves dernier. Bah, faut savoir pas péter un câble et savoir revenir et rien lâcher, quoi. Parce qu'une course, c'est jamais fini. Et tu peux avoir des problèmes à bord, tu peux avoir du stress.
Quelle a été votre expérience la plus effrayante à bord ?
Sur mon petit bateau, pas mon bateau de course au large du coup, mais mon petit habitable qu'on m'a donné, une fois j'ai eu un problème de moteur. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait vraiment pas de vent. Du coup, on était au moteur. Heureusement, j'étais avec un ami à ce moment-là. Et on était près des cailloux dans le Finistère, donc il y a pas mal de cailloux. Et d'un coup, le moteur s'est arrêté de tourner. Et il y avait beaucoup de courant. Et pas du tout de vent, donc on n'était pas manœuvrant à la voile, on était juste dépendant du moteur. Et là, je voyais les cailloux qui approchaient, et puis il a fallu que je mette les mains dans le moteur et que je résolve le problème rapidement avant de se retrouver dans les cailloux. Donc là, c'est un moment où j'ai bien eu peur. Et le moteur a redémarré pile au moment où je voyais vraiment les cailloux à côté. Voilà, donc ça, c'est pas en rapport avec la course au large, mais je pense que c'est le moment où j'ai eu bien peur. Et puis sinon, ma première course en solitaire, du coup, au large, j'ai eu un problème d'énergie. J'avais plus d'énergie. Du coup, plus d'énergie égale plus de pilote automatique, plus de moyens électroniques, quoi. Donc, j'étais pas encore complètement en blackout électronique, mais c'était en train d'arriver. Et du coup, j'ai dû barrer beaucoup. Enfin, pas très peu utiliser le pilote automatique, donc très peu dormir. Et j'ai eu des hallucinations cette nuit-là parce que j'étais trop fatiguée, quoi. Et c'était ma première course en solitaire, donc j'étais pas prête à ce genre. J'étais pas vraiment prête psychologiquement à ce genre d'événement, quoi. Mais ça l'a fait. J'ai fini la course, pas trop mal, et milieu de flotte. Et... Au travail, en tant qu'ingénieur et à l'école, moi, avant de travailler et avant de me réorienter en école d'ingénieur, on m'a souvent dit « Tu verras, ça va être horrible, il n'y a que des gars... rien contre les garçons, mais on m'a dit « Il y a beaucoup... Enfin, il y a vraiment très peu de filles en école d'ingénieur, tu vas te sentir très seule, quoi. » Effectivement, on était 15%, c'était pas beaucoup, mais ça s'est super bien passé. Et ça c'est typiquement un cliché qu'on a souvent et qu'on nous dit souvent quand on est femme et qu'on veut faire une école d'ingénieur ou devenir ingénieur. Et c'est très faux, ça se passe très bien. Dans mon entreprise, en tout cas, moi, je sais pas si c'est de la chance ou pas, mais moi ça s'est très bien passé et j'ai pas eu de problème vraiment lié à ça. Là où j'ai peut-être plus eu de problèmes, c'est que je gérais une équipe de 8 personnes et que c'était mon premier emploi, j'étais toute jeune par rapport à eux. Donc là c'était plus compliqué, mais... Mais j'ai pas ressenti vraiment de réelles difficultés liées au fait d'être une femme, quoi. Donc ça, c'est... Et surtout en école d'ingénieur, vraiment, il n'y avait aucun problème. Au contraire, il y avait plutôt de l'entraide avec des garçons et c'était cool. En tant que navigatrice, c'est un sujet assez vaste. Je trouve qu'il y a une vraie amélioration. Il y a de plus en plus de femmes, quand même, qui viennent naviguer. C'est incomparable par rapport à il y a 30 ans, 40 ans. Il y a quand même beaucoup plus de femmes. Après, la différence qu'on peut voir, c'est qu'il faut plus... on a plus de choses à prouver, peut-être, pour être à un poste... Quand on est en équipage mixte, parce que moi, je fais aussi de l'équipage, je fais pas que du solitaire. Quand on est en équipage, par exemple, à 5 personnes, il y a des postes qui sont plus ou moins physiques. Et forcément, c'est humain, on a un peu moins de force physique. On a peut-être plus de choses à prouver, c'est peut-être moins évident qu'on soit à des postes plus physiques qu'un garçon. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être un peu désagréables, c'est qu'on doit plus faire ses preuves avant, quoi. Mais sinon, je trouve qu'on reste quand même très bien accueillis. Enfin, là encore, avant-hier, quand je naviguais, j'étais que avec des gars, et c'était super. J'ai ressenti aucun problème, pareil, lié au fait que j'étais une femme. Et d'ailleurs, j'étais au poste le plus physique, alors que c'était la première fois que je naviguais avec eux. Et je pense qu'il ne faut pas faire de généralité, parce que c'est vraiment... Là, c'est mon expérience à moi. Je sais qu'il y en a aussi qui ont des mauvaises expériences. Je sais qu'il y a vraiment des femmes qui ont des très mauvaises expériences aussi, dans, pas forcément en compétition, mais dans d'autres milieux. Par exemple, sur une croisière, il y a eu un peu des... Si vous allez voir la Fédération Française de Voile ou l'École des Glénans, ils ont fait pas mal de posts sur les réseaux où ils parlent un peu d'expériences vécues, et il y en a qui sont vraiment pas très cool, quand même. Ça arrive souvent qu'il y ait une femme qui soit là à bord et qu'en fait on lui demande jamais rien et qu'elle soit juste là parce qu'il fallait une personne en plus, mais voilà. Mais donc ça, c'est assez variable, quoi. Mais en tout cas, je pense qu'en compétition, je trouve que ça, on va quand même dans le bon sens et que il y a encore des progrès à faire, mais je trouve que ça va quand même dans le bon sens. Même si on s'entraîne à fond, je pense qu'il y a quand même, en tout cas, on a plus besoin de s'entraîner physiquement pour se retrouver au même niveau qu'un homme qui s'entraîne pareil, quoi. Donc ça, c'est normal. Après, en fait, ça reste un sport, c'est pas que physique, justement. Ça reste très technique. C'est dans la tête aussi, il faut faire les bons choix météo, les bons choix tactiques, faut avoir bien préparé sa course, faut savoir bien se gérer mentalement, avoir bien géré sa nourriture, son sommeil, tout ça c'est des choses qui sont hyper importantes, donc il n'y a pas que ça. Et puis physiquement, comme je disais, tu peux te préparer quand même. Moi je me prépare physiquement toutes les semaines, tu peux gagner en compétences là-dessus, et puis surtout le bateau tu peux aussi l'adapter pour qu'il soit plus facile. Enfin, plus facile entre guillemets pour une femme. Tu peux démultiplier les forces à certains endroits pour le rendre un peu plus facile. Par exemple, je sais pas si ça vous parle, un palan. Des fois, tu mets une poulie, enfin, plusieurs poulies de chaque côté avec plusieurs cordes qui passent entre les deux. Et plus tu vas mettre de brins de cordes et plus tu vas mettre de poulies, plus la force, plus tu pourras tirer facilement dessus, quoi. Par contre, si on rajoute. Trois fois cette corde avec des poulies, ce sera plus facile, on va démultiplier la force. Donc ça, c'est des choses, par exemple, qu'on peut faire, qu'on peut adapter, en fait, sur un bateau. Donc ça se réfléchit, en fait. Voilà. Je dirais que c'est les deux, c'est une force et une fierté. Et puis, peut-être qu'il y a plus de choses à prouver, mais en fait, c'est cool aussi, une fois que tu y arrives, de montrer bah, en fait, c'est possible aussi.
Comment s'organise l'hygiène sur le bateau ?
Est-ce que vous avez un plan ? Ouais. Bah, ça s'organise pas très bien. les toilettes, c'est un seau. c'est le seul coin, on va dire. On a, grosso modo, on a au mieux pour dormir, par exemple, un pouf pour te mettre dedans. Pour la cuisine, c'est un petit jet bowl, c'est une petite bouteille de gaz qui avec quelque chose pour contenir de l'eau au-dessus. Donc c'est ça que tu te fais à manger. Et puis pour l'hygiène, du coup, t'as un seau pour faire tes besoins. Puis après, t'emmènes des lingettes, genre de choses pour te nettoyer. Mais il faut aussi, ça dépend aussi des courses. Si t'as une course de 3 jours, tu vas pas forcément trop prendre le temps de gérer tout ça. J'avoue que moi, j'ai fait une course de 6 jours. J'avais pas pris de douche, quoi. Enfin, j'avais rien pris. Et tu fais du sport, quoi. Mais t'as pas le temps, en fait. Sur des courses courtes, entre guillemets, t'as pas le temps de gérer ce genre de choses. Donc l'hygiène est assez minimum. Après, sur une transat, tu vas peut-être prendre une douche ou deux. Quand même, histoire de sentir bon à l'arrivée, quoi. Mais non, l'hygiène... Mais c'est un élément... Enfin, je dis ça, mais c'est quand même un élément qui est vraiment pas à négliger. Et là, je pense que je réponds aussi comme ça, parce que j'ai pas encore assez d'expérience, et que c'est justement quelque chose qu'il va falloir que je travaille. Parce que t'as beaucoup de skippers qui vont avoir des problèmes sur un Vendée Globe. Par exemple, tu peux avoir des scars sur les fesses, par exemple, à force d'être trop assis, quoi. C'est vraiment quelque chose qui peut vite être désagréable. Moi, je l'ai senti au bout de 5 jours de course. Au bout d'un moment, ça devient compliqué d'être assis, quoi. Parce que quand t'es tout le temps à la barre, c'est vraiment pas quelque chose qui est agréable. Donc on a des coussins, par exemple, anti-escar, comme les personnes âgées qui sont trop assises. C'est des choses qui restent hyper importantes, quoi. Et d'ailleurs, il y a des formations là-dessus avec des médecins qui nous conseillent des crèmes et tout à emmener... pour se soigner quand même et rester propre, parce que sinon c'est vite désagréable. Puis t'as pas trop de médecins pour venir te voir en plein milieu de l'Atlantique.
Est-il possible d'attirer plus de femmes dans votre métier ?
En montrant que c'est possible, en tout cas, parce que je naviguais déjà, mais je pensais que c'était pas possible, j'osais pas, surtout quand on est jeune, j'ai l'impression qu'on ose moins, et puis les femmes osent moins de manière générale. Donc c'est important de montrer que... Enfin, c'est un peu l'objectif de mon projet, du coup, c'est de montrer que les femmes sont bien accueillies, en tout cas en navigation, et puis dans des entreprises industrielles, techniques. Au contraire, ils cherchent des femmes. J'essaie d'en parler un maximum. Puis après, j'aimerais bien... L'idée, c'est de véhiculer des rôles modèles, quoi. Des rôles modèles, mais pas uniquement de mon métier, mais aussi de travailler avec les entreprises partenaires de mon projet, et qu'il y ait des femmes de chez eux qui viennent faire des interventions aussi avec moi ou sans moi, et qu'on vienne en parler. Et puis aussi, avec eux, faire des visites d'entreprise, montrer un peu leur quotidien, quoi, et montrer ce que c'est. Et puis aussi via les réseaux, très important les réseaux. Et j'aimerais bien aussi faire suivre mes courses à distance. Je vais avoir un site internet où je vais déposer des outils pédagogiques pour les enseignants, pour qu'ils puissent suivre mes courses avec leurs élèves à distance. Puis du coup, pendant les courses, l'idée, c'est de suivre... nous, on a un tracker à bord. Donc, vous pouvez suivre en direct la position du bateau, le classement et tout. Et vous pouvez voir aussi la météo. Donc, en fonction de la météo, essayer d'anticiper qu'est-ce que je vais faire comme choix et ainsi de suite, quoi. Des étudiants peut-être un peu plus âgés que vous, je vais organiser des projets étudiants en lien avec les entreprises et mon projet. Donc, par exemple, ça va être autour du composite aussi, du coup, ce que moi, je pratique, donc les fibres de verre, carbone, c'est de faire des projets tests. Donc, je vais avoir des échantillons de mon bateau. Je vais les donner à des étudiants. Et eux, ils vont essayer de me dire quelles sont toutes les possibilités de recyclage de ces composites et d'essayer d'en développer d'autres et enfin, de me faire un peu une étude là-dessus. Et de faire des tests quoi, avec ces échantillons-là. Et puis, il y a d'autres projets aussi, comme développer un outil de récolte des données d'énergie du bateau et d'analyse, et comment les optimiser. Parce que je vais traverser avec un panneau solaire. Mais on a pas mal d'équipements électroniques à bord, et en fonction de la météo, ces équipements, ils consomment plus ou moins, quoi. Par exemple, si on a le pilote automatique, si on a beaucoup de vent, beaucoup de mer, il va plus consommer, parce qu'il va plus devoir jouer avec la barre, il va plus consommer. Donc l'idée, c'est d'essayer de développer un peu un outil là-dessus qui permette de comprendre tout ça et du coup, en mer, réussir à gérer au mieux pour consommer le moins possible, quoi. 2050, c'est en 25 ans. Donc j'aurais 50 ans. idéalement, ce que je disais, ce serait d'avoir une double activité, donc peut-être d'avoir... Alors là, je vais naviguer sur les plus petits bateaux de course au large, mais ça serait d'avoir un bateau plus gros pour faire des courses encore plus importantes et d'avoir peut-être un sponsor qui me suit pour avoir une petite écurie, une écurie de course au large et avoir peut-être d'autres bateaux aussi, pas que le mien, mais aussi d'avoir peut-être d'autres jeunes avec moi à qui je transmets tout ça. Et puis d'avoir du coup une double activité entre cette écurie qu'il faut gérer et puis... mon métier d'ingénieur auquel je tiens beaucoup et auquel j'ai vraiment envie de continuer d'apprendre et j'ai vraiment pas envie de lâcher. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir cette double activité, ingénieur et navigatrice, quoi.